Alors, aujourd'hui, puisque nous sommes encore, j'espère toujours, dans la grâce de la Pentecôte, eh bien, il nous faut parler de pourquoi on a besoin de délivrance et quel est l'objectif de la délivrance. Alors je dis tout de suite, ceux qui veulent juste être délivrés de certaines oppressions, en essayant cette prière, on leur dit au revoir et merci. Parce que ici c'est une autre adresse. Ici, ce qui nous est proposé, c'est de recevoir la délivrance de Dieu qui a un projet sur nous. Et à nous d'accueillir ce projet, pas 5% du projet. Une délivrance, s'il vous plaît. Le but de notre vie, c'est quoi? C'est, comme disait Saint Séraphin de Sarov, un grand saint de Russie, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de notre vie, c'est que nous soyons conformés au Christ. Donc, vous pensez bien que si nous avons demandé à Dieu d'éloigner de nous les esprits mauvais, eh bien, si à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre vie, il n'y a pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui reste quand on a éloigné les esprits mauvais? Il reste du vide. Et, vous savez, les esprits, c'est un peu comme les gaz. Ils occupent l'espace qu'on leur donne. Alors, je cite juste Matthieu 12, versets 43 et suivant. « Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. » Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, je la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui, il y rentre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Bon, on a été prévenus, on sait que dans ce chemin de délivrance, la première étape, je vous le rappelle, c'est eh bien, la foi. Je mets ma foi dans le Seigneur. Première étape. La deuxième étape, c'est le pardon. Pas question de recevoir une délivrance quelconque. Si je n'ai pas pardonné, comment du fond du cœur? Donc, vous me direz, c'est impossible, sauf que ce qui nous est demandé au moins, c'est de désirer pardonner et de le décider. Dieu nous aidera. Ensuite, renoncer à tout ce qui en nous ouvre évidemment la porte aux esprits mauvais. Et enfin, c'est la prière pour la délivrance et demander la bénédiction. Mais j'ai à cœur de, aujourd'hui, de rajouter une étape. Cette étape, c'est demander l'effusion du Saint-Esprit. Alors, l'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas réservé aux charismatiques de service, qu'on appelle de temps en temps les dévisseurs d'ampoule. Bon, les charismatiques, ce n'est pas ça, parce que l'effusion du Saint-Esprit, je vous le rappelle, c'est une grâce qui est donnée aujourd'hui. Et je vous rappelle un peu l'historique. À la fin du 19e, une certaine mystique dénommée Elena Guerra a été trouvée le pape Léon XIII pour lui demander de consacrer le monde au Saint-Esprit. Donc on est à la fin du 19e, début du 20e, il va s'exécuter. Et peu de temps après, on a l'apparition des pentecôtistes, été des protestants, je crois baptistes ou presbytériens, je ne m'en rappelle pas très bien, et a commencé effectivement une grâce qui a été donnée bizarrement en dehors de l'Église catholique. Mais une des premières manifestations du renouveau dans le Saint-Esprit, dans l'Église catholique, c'était exactement en 1967. Et ça s'est passé aux États-Unis, dans une université. Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette université, il y a eu une grâce aussi, d'effusion du Saint-Esprit extraordinaire, à partir d'un petit groupe de prière dans cette université. Et ça a été tellement fort qu'ils ne se sont pas arrêtés pendant plusieurs semaines, je crois, une semaine, et même les profs ont dû arrêter leurs cours parce que tout le monde venait prier. Et voilà, le Saint-Esprit est là, c'est pas juste réservé pour quelques gens excentriques. Le Saint-Esprit est pour vous. Une bonne nouvelle, non? Je sais pas si vous y croyez. Vous y croyez au Saint-Esprit? Bon, c'est pas juste une idée, quoi. Le Saint-Esprit ne va pas non plus vous faire rentrer dans un look un peu bizarre. Non, pas du tout. Et on va voir pour nous, voilà, quelles sont finalement les dispositions indispensables pour recevoir le Saint-Esprit. Mais finalement, cette acquisition du Saint-Esprit, je le répète, c'est le but de notre vie. Notre véritable identité, c'est d'être enfant de Dieu. Et seul le Saint-Esprit, donné et à grand prix, nous le verrons, seul le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. C'est-à-dire capables de l'amour et de la vérité de Dieu lui-même, participant de la nature divine. Seul le Saint-Esprit peut faire ça dans nos cœurs. Alors, comment se disposer? Moi, je vous propose de nous mettre à l'école de l'Évangile, comment les apôtres ont été préparés à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs effusions du Saint-Esprit. Il n'y a pas que la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le bouquet, oui. Mais on verra qu'il y a quand même des préparations où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Première préparation, c'est dans les mystères joyeux. Il va être donné à ses apôtres de reconnaître dans le Christ le Messie. Pas encore le Fils de Dieu, mais au moins le Messie. Et ça, seulement l'Esprit Saint peut entraîner cette intelligence. Car il s'agit ici d'une intelligence spirituelle. Les apôtres, comme Jean-Baptiste, vous voyez Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus, on suppose quand même qu'il se connaissait. Il reçoit la grâce surnaturelle de reconnaître dans son cousin l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Grâce au Saint-Esprit, c'est le jour où nous allons faire une rencontre de Jésus. Et cette rencontre, nous pouvons tous la faire. Parce que Jésus a dit, demandez et il vous sera donné. La question à nous poser, qu'est-ce que nous cherchons? C'est cette question que Jésus va poser aux deux disciples de Jean qui l'ont suivi dans l'évangile de Saint Jean au premier chapitre, au moment du baptême. Ils l'ont suivi et Jésus leur demande, que cherchez-vous? Quel est le désir de votre cœur? On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si tu ne cherches pas Dieu, lui, il te cherche. Mais dans ton cœur profond, tu le cherches. Alors, bienheureux sommes-nous si nous sommes des hommes et des femmes de désir. Préparation aussi dans les mystères lumineux, car les disciples qui ont été saisis par le regard de Jésus, certains de ces miracles, comme la pêche miraculeuse, vous savez, Pierre disait, mais non, je ne suis pas digne de toi, éloigne-toi de moi. Là, il a reçu la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu. Déjà un don du Saint-Esprit. Crainte de Dieu. Ça, c'est dans les mystères joyeux. C'est comme une première alliance, si vous voulez, que nous avons à vivre dans nos vies. Ensuite, effectivement, il y a une préparation dans les mystères lumineux. J'espère que nous avons notre Bible. Vous avez tous votre Bible sur... En fait, que la Bible fasse partie de notre quotidien. Parce que pourquoi ? Parce que nous cherchons autre chose que notre propre logique et aussi la logique du monde. Combien de temps nous exposons-nous à nos écrans, à nos télévisions ? Et combien de temps nous exposons-nous à la Bible ? Je vous propose juste cette petite équation. J'espère qu'elle est très positive. Voilà. Alors, donc, les apôtres vont être évidemment à l'école. Jésus va donner ce commandement nouveau. Il les appelle à l'école de son cœur doux et humble. La douceur qui n'est pas une mièvrerie, mais une façon d'aimer plus forte. Et de faire miséricorde, la douceur, c'est pas évident. Et l'humilité, encore moins. Bon, il nous appelle à cette douceur, à cette humilité de son cœur. Il nous appelle à être comme des enfants. Il nous donne, Jésus, j'entends, le commandement de la miséricorde, de l'amour. Il nous invite à être comme des enfants. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit va faire de nous des enfants, véritablement. Mais si nous ne voulons pas être des enfants, pas infantiles, hein, mais des enfants de Dieu, alors nous fermons la porte au Saint-Esprit. Nous avons besoin de retrouver comme une spontanéité et une confiance de l'enfant en nous. Car nous sommes tous des enfants dans notre cœur. Attention, pas infantiles, mais des enfants qui ont besoin de s'appuyer sur un rocher. Et le rocher, il est en Dieu. Sinon, nous sommes des idolâtres à nous appuyer sur des idoles, mais pas Dieu. Et les apôtres vont aussi être envoyés en mission, donc ils reçoivent quelque chose du Saint-Esprit. C'est déjà une effusion du Saint-Esprit. Ils ont autorité sur les esprits mauvais. Ils ont autorité pour opérer des miracles. Et puis ils trouvent ça assez étonnant d'ailleurs. Sauf qu'un jour, ils n'ont pas réussi. Et le papa du jeune, épileptique, dans l'évangile de Saint Matthieu, qui était épileptique du fait d'un esprit mauvais, eh bien, il va aller voir Jésus. Jésus va faire ce miracle. Et les apôtres ont demandé, mais pourquoi ? Pourquoi ? On n'a pas réussi, quoi. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à expulser ce démon ? Réponse de Jésus, en raison de votre peu de foi. Ils n'ont pas encore reçu l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont reçu un peu le Saint-Esprit. C'est peut-être un peu comme nous aujourd'hui. Vous savez, moi je me rappelle d'un missionnaire qui nous avait raconté comment il avait été témoin de résurrection des morts. Mais oui, il y a des résurrections des morts aujourd'hui. Vous y croyez, j'espère ? Bon, comme il avait beaucoup d'humour, il me disait pourquoi il y a beaucoup de résurrections des morts en Chine ? Et pas beaucoup en France. Alors, il disait, vous pensez qu'en Chine, il n'y a pas assez d'habitants, alors Dieu ressuscite les morts ? Non, il nous a dit, en Chine, on trouve une foi très très grande. Ils ont la foi. Pas forcément tous, évidemment. Mais ils ont la foi. Alors, il nous disait, mais vous, vous pouvez prier aussi. Attention, ne priez pas pour le mort, pour que le mort ressuscite, pour le plaisir de ressusciter. Hein. Il faut vraiment que ça soit donné dans le Saint-Esprit. Mais il faut avoir la foi. Préparation des disciples, non seulement dans les mystères joyeux, dans les mystères lumineux, où le Saint-Esprit va, comme les apprivoiser, leur apprendre la confiance. On se rappelle de Pierre marchant sur les eaux. Bon, c'est une école. Et préparation aussi dans les mystères douloureux. L'Esprit Saint va effectivement révéler où est le péché. C'est ce que dit Jésus dans Jean 16, verset 8. Et lui, une fois venu, le Paraclet établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. Le Saint-Esprit va nous donner une lumière sur notre péché qui n'est pas une lumière diabolique, car le démon peut nous donner aussi des lumières sur notre péché pour nous accuser, l'accusateur de nos frères. Quand le Saint-Esprit nous révèle notre péché, il nous révèle en même temps la miséricorde de Dieu. Et là, là, se passe une effusion, une descente du Saint-Esprit qui va briser ce qui est dur dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui va céder. Et c'est ce que va vivre l'apôtre Pierre. Vous savez qu'il avait promis à Jésus qu'il le suivrait même jusqu'à la mort. Et Jésus lui avait dit « Le coq n'aura pas chanté trois fois. Tu m'auras déjà renié. » Voilà. Trois fois. Enfin, que, vous voyez. Donc, il va pleurer amèrement. Il est dit d'ailleurs que le regard, le Seigneur se retournant, fixa son regard sur Pierre quand le coq a chanté. Luc 22, verset 60. Et dans ce regard, il y a l'expérience, il est en train de trahir. Rien de pire pour un disciple. Et en même temps, il reçoit l'amour qui est au-dessus de tout amour. Car il n'y a pas de plus grand amour que de livrer sa vie. Et il va exprimer par ses larmes cette expérience du Saint-Esprit. Saint Isaac le Syrien, moine du 7e siècle. Celui qui connaît son péché est plus grand que celui qui ressuscite un mort. Je vous le répète. Celui qui connaît son péché est plus grand que celui qui ressuscite un mort. Celui qui pleure une heure sur lui-même est plus grand que celui qui enseigne le monde entier. Celui qui connaît sa faiblesse est plus grand que celui qui voit un ange. Celui qui suit le Christ en secret et avec repentir est plus grand que celui qui jouit d'une grande réputation dans les églises. L'œuvre du Saint-Esprit est de nous ouvrir lorsque il nous montre notre péché, de nous ouvrir à l'intelligence du cœur de Jésus. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est passé pour Judas. Judas a trahi et il va voir les grands prêtres, les pharisiens, tout ce monde-là, et il va rendre l'argent, il va dire son péché, j'ai péché en livrant à la mort un innocent, et eux, ils lui disent, que nous importe, cela te regarde. La différence entre Pierre et Judas, Pierre, Jésus le regarde. Il fait l'expérience de l'amour de Jésus. Il pleure. Son cœur est brisé. Judas, cela te regarde. Et effectivement, si nous restons sous notre regard qui nous accuse, alors notre cœur ne risque pas de se briser dans les larmes du repentir. Ce sera une forme de révolte et qui peut conduire à notre mort. Alors changeons de tribunal, frères et sœurs. Même quand nous allons nous confesser, changeons de tribunal. Parce qu'il y a une façon mauvaise de se confesser. C'est-à-dire, on va juste dire des péchés, oui, mais avec une grosse culpabilité, puis éventuellement, on va répéter ces mêmes péchés, parce qu'il faudrait plusieurs confessions, parce que ça me revient tout le temps. Là, nous ne ressemblons pas à la grâce. Nous sommes sous notre propre regard, qui nous accuse. À la confession, nous changeons de tribunal. Nous laissons derrière nous l'accusation et nous disons, Seigneur, j'ai confiance en toi. Aie pitié de moi, pécheur. Et nous accueillons la justice de Dieu qui nous rend justes. Imaginez que Sainte Marie-Madeleine est passée encore une dizaine d'années à dire, oui, j'étais prostituée, c'était vraiment pas bien, etc. Bon. Non. Marie-Madeleine a reçu la miséricorde et elle s'appelle désormais Sainte Marie-Madeleine. Vous avez revêtu le Christ. Alors, nous ne regardons pas en arrière. Et si le démon nous accuse en disant « Mais si, mais quand même, tu es un grand pécheur et c'est vraiment pas bien », eh bien, faites comme la petite Thérèse de Lisieux. Les péchés du passé m'humilient, dit-elle. Mais plus encore, me parle de la miséricorde du bon Dieu. Et elle enchaîne, je chanterai les miséricordes du Seigneur, etc. Alors que ce soit notre attitude devant Dieu, et vous voyez que c'est celle du pauvre. On a été éduqués dans les mystères joyeux et lumineux à la pauvreté spirituelle, et dans les mystères douloureux, nous allons approfondir cette pauvreté spirituelle. Car nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu pour nous juger nous-mêmes, et évidemment après juger les autres. Non, Dieu seul est un juste juge. Et son jugement nous rend juste. Et là, c'est une conversion intérieure que de laisser Dieu nous sauver. Voilà. Et dans les mystères douloureux, bien sûr, nous serons éprouvés pour accueillir la providence de Dieu qui fait tout concourir au bien. Je ne sais pas si vous avez lu le livre « La puissance de la louange », qui est un des classiques du renouveau charismatique dans ses débuts. C'est un Américain qui s'appelle Marilyn Carothers, je vous le dis avec mon accent, qui a écrit ce livre. Et le principe, c'est Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand je reçois une tuile, je peux dire merci Seigneur. Non pas pour la tuile qui n'est pas envoyée par Dieu, sauf que Dieu ne l'a pas empêchée. Mais je vais dire merci Seigneur, parce que je sais qu'à travers cette épreuve, toi, tu agis pour un plus grand bien. Waouh, ça change tout. Et donc, nos épreuves vont arrêter de nous replier sur nous-mêmes dans un esprit victimal qui va attirer encore d'autres esprits mauvais, tant que nous restons dans l'esprit victimal, et je me plains, et je me plains, et je suis malheureux, et moi. Eh bien, si je me maintiens dans cet esprit victimal, je ressemble au peuple de Dieu dans le désert qui s'est plaint et s'est plaint et s'est plaint, et résultat des courses, les serpents. Il y a eu plein de morts ce jour-là. Alors nous, on a besoin de vivre cette conversion du cœur pour que nous soyons des vrais pauvres dans les mystères douloureux. Tant que nous nous jugeons nous-mêmes, tant que nous disons « Seigneur, ta providence, ça n'existe pas, parce que je suis malade », alors nous sommes dans la catégorie des victimes, de la victimisation qui attire les démons. Et là, il va falloir ne pas trop s'étonner que même 10 ans, 20 ans après, avec toutes les prières de délivrance que vous voulez, vous en êtes toujours au même point. Donc, une belle étape à franchir. Alléluia. Dans les mystères douloureux, eh bien, à travers ces mystères, Jésus nous donne sa mère, Jean 19, il va donner sa mère qui était debout au pied de la croix. Je ne sais pas si les mères qui sont ici peuvent comprendre ce que ça veut dire. Elle était debout. Mais le cœur transpercé, debout. Et ce qui la faisait tenir, c'est quoi? Elle n'était pas dans une victimisation. Pauvre de nous, pauvre de moi, et moi, et moi. Elle était unie à son Fils parce qu'elle savait qu'il sauvait le monde. Et là, il y a cette force extraordinaire qui la maintient debout. Et vous avez un père, peut-être 8e ou 9e siècle, excusez-moi, qui a comme une vision de Marie restant debout toute la journée du sabbat. Parce que c'était le sabbat. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On rentre dans cette intimité du Père. Le sabbat, le cantique des cantiques, vous voyez, c'est ça, le sabbat. Et Marie, dans cette situation, reste debout dans sa foi et elle va à la fois prier dans le sens des lamentations, mais aussi du cantique des cantiques. Et finalement, dans son cœur, elle dit « Père, ressuscite-le !» Et le Père craque. Il va ressusciter son Fils. Je trouve ça très beau. Bon, ce n'est pas écrit dans l'Évangile. Moi, je trouve ça très beau. Marie va nous être, elle nous est donnée pour que nous tenions dans la foi par beau temps et par mauvais temps. Et sur la croix, Jésus, il est dit qu'il va rendre l'esprit, il souffre. Il souffle l'Esprit et nous avons ici une effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, l'Église, dans sa tradition, a vu dans le cœur ouvert d'où jaillit l'eau et le sang, l'effusion même du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, au même moment, le voile du temple s'est déchiré. Vous savez que dans le temple, ce voile séparait le Saint du Saint des Saints. Déjà, dans le Saint, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient rentrer. Et dans le Saint des Saints, le grand prêtre, une fois par an, le jour de Kippour. Et désormais, ce voile est déchiré. Ce qui veut dire que nous pouvons rentrer. L'Apocalypse dira « Une porte est ouverte dans le ciel. » Alors que cette porte s'était fermée, vous savez quand ? Au moment du péché originel. La porte était fermée et gardée par un ange pour empêcher qu'on puisse y parvenir. Et l'humanité était condamnée à rester dans les enfers. Et Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons arrachés au pouvoir des ténèbres et que la mort soit vaincue. Son cœur ouvert, eh bien, c'est aussi, bien sûr, le cœur eucharistique. Et c'est pourquoi, lorsque nous recevons l'Eucharistie et lorsque nous adorons le Seigneur dans le Saint-Sacrement, la source est là et elle coule. Et ses flots de vie coulent. Apocalypse 22, « Celui qui a soif qu'il vienne, et l'homme de désir qu'il puisse gratuitement l'eau vive. » Jésus avait dit, c'était pendant la fête des tentes. Vous savez, pendant la fête des tentes, le grand prêtre, pour ceux qui ont été à Jérusalem, le temple c'est un peu sur une hauteur, et puis il descendait, chercher de l'eau à la fontaine de Siloé, c'est plutôt en bas. En fait, on remontait des quantités d'eau extraordinaires et ça faisait comme un ruisseau qui coule de la porte du temple. Très intéressant. Et ce jour-là, Jésus, debout, s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'effusion du Saint-Esprit, la vraie, la grande, la totale, il y en a une première, le soir de la résurrection. On l'oublie un petit peu parfois celle-là. Jésus apparaît, il va souffler. Il souffle sur ses disciples et il leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il souffle et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc nous avons l'institution du sacrement de réconciliation. Mais peut-être pouvons-nous aussi comprendre cette parole de Jésus pour plus large que les 16 apôtres. Et je vous rappelle la parole de Saint Siloane du Mont Athos. On peut... C'est pas vraiment comme ça qu'il le dit, mais en gros, ça veut dire ça. On peut reconnaître si quelqu'un est animé par le Saint-Esprit dans sa capacité d'aimer ses ennemis. On reconnaît d'une façon indubitable la présence du Saint-Esprit dans une âme à sa capacité d'aimer ses ennemis. Donc, voilà. C'est pourquoi il est si important pour nous de nous décider à pardonner. Je me rappelle l'histoire, celui qu'on a appelé Monsieur Pentecôte, David Duplessis. Il faisait partie d'une famille super charismatique, bon, c'était des pentecôtistes, et lui, il avait demandé de recevoir l'effusion du Saint-Esprit, qui n'avait rien à faire. On avait beau prier, ben, il ne recevait pas du tout la grâce de l'effusion du Saint-Esprit, enfin, tout du moins, apparemment. Jusqu'au jour où, il avait 13 ans, une fille de son âge lui dit, « Tu sais, il y a un péché que tu n'as jamais confessé, tu n'as jamais demandé pardon pour ça. » Et elle lui raconte l'affaire. Et l'affaire, c'est que quand il était tout petit, il était en train de s'occuper de sa petite sœur qui était plutôt bébé, puis il y avait une espèce de tourniquet au-dessus du berceau. Il s'est amusé autour du tourniquet. Manque de peau, le tourniquet s'est décroché. Et puis la petite, elle a eu rope dentale. Bon, la maman lui dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, non, je sais pas. Et voilà, il avait nié sa responsabilité. Et dans cette histoire, finalement, eh bien, le petit David, 13 ans, s'est jeté dans les bras de ses parents en pleurant, en disant, j'ai jamais demandé pardon. Et figurez-vous que, à ce moment-là, il s'est mis à parler en langue, c'était du chinois. Alors, il a dit, Seigneur, je n'ai pas envie de partir en Chine. Voilà. L'importance, donc, de cette capacité de pardonner qui est un fruit direct du Saint-Esprit au moment de la résurrection. Première effusion très forte du Saint-Esprit. Deuxième effusion, nous la connaissons évidemment, c'est le jour de la Pentecôte. Alors, il est intéressant, je vous l'ai sans doute dit plusieurs fois, que de noter que la Pentecôte chrétienne correspond à la Pentecôte juive. C'est-à-dire, pour donner la grâce du Saint-Esprit, Dieu, dans sa providence, a choisi le jour de la Pentecôte. Il aurait pu choisir le jour de la fête des tentes. Enfin, le premier jour ou le dernier. Parce que vous savez, les fêtes dans le judaïsme, ça dure 7 jours. Non, il a choisi le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Vous vous rappelez ce qu'on fête dans le judaïsme et aussi du temps de Jésus? Ce qu'on fête le jour de la Pentecôte. C'est une des 3 grandes fêtes de pèlerinage. Vous avez d'abord la fête des tentes, ça se passe en automne. On va faire mémoire de la traversée du désert. Et puis encore aujourd'hui, on va dormir sous des cabanes. On s'arrange pour qu'on puisse voir les étoiles. Fait mémoire de la providence de Dieu qui est là pendant ces 40 années. Ensuite, il y a la fête de Pâques, Pessah. On fait mémoire de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe 50 jours après la sortie d'Égypte? Eh bien, Dieu donne sa Torah. C'est les 10 commandements qui sont écrits sur des tables de pierre. Donc, le Seigneur avait promis par ses prophètes qu'il allait écrire sa loi, non pas sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs. Jérémie 31, verset 33. « Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. » Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ça, c'est la Pentecôte réalisée, car le Saint-Esprit est donné le jour de la Pentecôte. On les a pris pour des fous, les premiers charismatiques, complètement dingues ceux-là, l'ivresse, ils ont trop bu. Non plus. Alors, quels sont justement les effets de cette effusion du Saint-Esprit que nous désirons tous, parce que nous l'avons peut-être reçu un jour, Et ce serait une erreur de dire, bon, moi j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit, donc c'est bon, maintenant, c'est bon. Non, on a envie de demander davantage. Davantage, Seigneur. Alors, pour comprendre l'importance du don du Saint-Esprit, bah déjà, Galates 5, laissez-vous mener par l'Esprit. Vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Romains 8, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et Galates 5 encore, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Alors le don du Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe. Le don du Saint-Esprit va nous transformer, va provoquer en nous une transformation ontologique. Ontologique, de l'être profond. Vous n'êtes plus le vieil homme, la vieille femme que vous étiez, ou qu'une partie de vous-même est. Votre vraie identité, Colossiens 3, 3, considérez que vous êtes mort, et ce que vous êtes caché avec le Christ en Dieu, c'est votre identité. Vous êtes fils et filles de roi. Bienvenue à la maison. Waouh! Vous voyez, ce n'est pas une espèce de petite dévotion. Bon, on a eu la Pentecôte, c'était sympa, maintenant on passe à autre chose. Non, on est dans le vital. On est dans quelque chose d'absolument vital. Comment vivre sans le Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit, c'est une. Finalement, il va nous transformer. Oui, il fait de nous des enfants de Dieu. Et ça, c'est ce que dit déjà le prologue de Saint Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Galates 4, « Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Si toutefois, nous lui laissons la place pour qu'il puisse crier « Abba, Père !» Saint-Esprit a transformé nos cœurs et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'Eucharistie. Parce que si nous sommes nés de nouveau, parce que nous adhérons à la personne du Christ, alors nous avons besoin d'être nourris. Et nourris au quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si vous avez la chance d'avoir la messe quotidienne, alléluia. Si ce n'est pas le cas, priez pour avoir ce pain quotidien. Pensez bien que ce n'est pas le pain que vous avez déjà dans votre frigo. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. On le sait bien. Alors on le mendie à notre Dieu. Donne-nous ce pain de ta présence, de ta parole. Ce pain que tu es, je suis le pain vivant descendu du ciel. Seigneur, j'ai soif de toi. Et on va crier notre Père. Si on ne crie pas, c'est qu'il y a un problème. Il s'agit pour nous de désirer du fond du cœur pour que Dieu, effectivement, réponde à notre prière. Si nous ne désirons pas, il va peut-être attendre un petit peu qu'on désire davantage. Alors, le Saint-Esprit va mettre en nous un cœur nouveau, c'est-à-dire une nouvelle façon d'aimer. On va passer de philotia à agapé. Maintenant, vous connaissez tout ça. D'une façon naturelle, on est plutôt dans philotia. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Je t'aime parce que j'ai besoin de profiter de ta présence, profiter un peu, voilà. Moi, quoi. C'est moi au centre. En général, si vous vivez ça dans votre couple, je ne donne pas trop longtemps pour que le couple explose. Parce que ça, c'est la relation de dominant-dominé. Je profite de toi, quoi. Enfin, voilà. Non, le vrai amour, c'est l'amour agapé, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. C'est l'amour inconditionnel. Donc devant vous, je suis tranquille, je peux dire toutes les bêtises que je veux, vous allez toujours m'aimer. Waouh, trop fort. voyez comme ils s'aiment. Ça, c'est le propre des enfants de Dieu. Jésus nous donne son commandement, un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres, agapé en grec, agapé, pas philétia, agapé, agapez-vous. Mais attention, comme je vous ai aimé, divinement. Seigneur, trop cool ton commandement, aimer divinement. Ouais, facile. Vous répondez ça, vous ? Ben moi, je dis, Seigneur, c'est impossible pour moi, mais tu ne peux pas donner un commandement impossible. Donc, c'est toi qui vas venir aimer et pardonner en moi. Ça a été la prière de la petite Thérèse dans le manuscrit C. Et du coup, on comprend que la Pentecôte, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas juste une fête qu'on a. Bon, c'était sympa, il y a le bouchon. Bon. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. Saint Paul va dire dans 1 Corinthiens 2, verset 16, « Nous avons la pensée du Christ. » Waouh, il est gonflé. Hein? « Nous avons la pensée du Christ. » Sauf que pour dire ça, c'est un combat quotidien pour mettre notre pensée derrière. Écoutez d'abord la parole de Dieu. Vous pouvez être très intelligent. Vous savez, il y a des théologiens hyper intelligents. Il y a des catholiques et des protestants et tout chrétiens hyper intelligents. Sauf qu'ils n'ont pas forcément la pensée du Christ. Voilà. Romains 12, verset 2. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Vous voyez, c'est indispensable aujourd'hui, avec les lois iniques, disons le mot, qui sont en préparation ou qui sont déjà sorties. Voilà. Et dans cette transformation, nous recevons une autorité de Dieu. Vous êtes baptisé, alors allez-y, vous avez l'autorité. Au nom de Jésus, vous pouvez exercer une autorité. Déjà sur vous-même, au nom de Jésus, je repousse ces ténèbres. Au nom de Jésus, je renonce à cette tendance mauvaise qui est en moi. Au nom de Jésus, je chasse ces mauvais esprits. Je le fais pour moi, j'ai autorité. Et je peux aussi, avec autorité, bénir. Allez-y, bénissez. Lorsque nous entrons dans un bus, dans un métro, dans un train, lorsque nous allons dans un magasin, Seigneur, bénis tout ce monde-là, bénis, bénis, bénis. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Nous avons autorité. Alors, si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est que nous le recevons encore. Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas de réserve. Il nous est donné notre pain quotidien. Pas pour plusieurs jours. Je n'ai pas fait ma réserve de Saint-Esprit, puis tout va bien pour moi. Non, c'est une façon de vivre dans le Saint-Esprit. L'importance de la prière du matin, les amis. Ne commencez jamais une journée sans une dose suffisante de silence du cœur devant Dieu. Sinon, j'appelle ça, vous êtes suicidaire. Vous allez vous plonger dans le monde sans avoir revêtu le Christ. Parce que ce n'est pas une magie d'avoir été baptisé. Il s'agit de dire oui à Dieu aujourd'hui et maintenant. Même si j'ai dit oui à Dieu ce matin, je vais devoir renouveler ce oui. Et le matin, c'est ce qu'on va faire. Seigneur, je veux faire alliance avec toi. On l'a fait un peu ensemble, on a loué le Seigneur ensemble. Convertir nos cœurs à la louange, parce que peut-être on n'a pas très bien dormi cette nuit, peut-être qu'on a quelques soucis, et nous allons être occupés par autre chose que la prière. Et si notre prière, c'est de dire, Seigneur, ça va pas, ça va pas, ça va pas, moi, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au bout du compte, on n'a pas prié. Parce qu'on a passé son temps à se plaindre. Et donc, on a entretenu une auto-malédiction. Intéressant, non ? Alors que notre prière du matin soit d'abord une prière de louange et d'action de grâce. Te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons, c'est ça la louange, nous croyons que tu es bon. Alléluia ! Nous croyons, nous levons le nom de Jésus, nous élevons ce nom sur toute puissance mauvaise. Et si on a des soucis, nous élevons le nom de Jésus sur tous nos soucis. Et nous, Seigneur, nous te bénissons. On en rajoute, c'est le Jéricho. Et ça, c'est la vraie prière. Vous irez trouver dans les Philippiens 4. Eh bien, faites monter vers Dieu votre prière, mais pénétrez d'action de grâce. Pénétrez d'action de grâce. Ça, c'est la prière chrétienne. Si tu pries, eh bien, tu vas d'abord rendre grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Croyez, vous avez déjà obtenu. Et ça, c'est important. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette vie, dans l'esprit ? Il va être comme imprimé en nous ce qu'on appelle les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Les vertus théologales. La foi, qui est simplement, pas simplement, je crois que Dieu existe, parce que les démons y croient aussi. Bon, donc si c'est juste ça, vous avez la foi du démon. Oui, je crois que Dieu existe, mais ça m'est égal, quoi. Non, la foi, c'est une adhésion. On croit que la parole de Dieu, elle est vraie, on l'accueille, on adhère. Donc c'est une obéissance. J'obéis à cette parole-là, pas à n'importe quelle parole. Ça, c'est la foi. Mais c'est aussi une confiance. Dieu l'a dit, il le fera. Bon, Sainte Monique qui avait prié pendant 18 ou 20 ans, je ne sais plus. Hein. Bon, il fallait avoir la foi, quoi. Elle avait prié pour la conversion de Saint Augustin. Elle n'avait pas dit au bout de quelques heures ou quelques jours, bon, ben, Seigneur, tu ne m'as pas exaucé, je retourne mes icônes et puis je m'occupe d'autre chose. La foi. La foi qui nous fait, eh bien, déplacer les montagnes. L'espérance et la charité, je dois aller assez vite, la charité qui est en fait le lien de toutes les vertus. Et si nous avons l'amour, charité, la foi, l'espérance et la charité, alors nos autres vertus qu'on appelle les vertus cardinales, si on veut faire un résumé, la prudence, la justice, la force, la tempérance, enfin bref, on va pas faire un cours là-dessus, toutes vos vertus quoi. Vous avez passé beaucoup de temps dans votre éducation à apprendre à être gentil, poli, tout ça. Ça, c'est les vertus acquises. Eh bien, vos vertus, lorsque vous recevez la grâce du Saint-Esprit dans l'effusion, elles vont devenir surnaturelles. Surnaturelles. Donc, elles auront beaucoup plus de force et votre vie, elle est propulsée. Et voilà, la vie dans l'esprit. Alors, vous avez entendu parler des dons du Saint-Esprit, on va aller assez vite, les dons du Saint-Esprit. Les dons par lesquels nous prions Dieu, c'est le don de crainte et le don de piété filiale. Par le don de crainte, nous voyons que Dieu est Dieu, alors nous nous mettons à genoux, nous nous prosternons face contre terre. Je regrette beaucoup qu'on ait enlevé les prie-Dieu dans les églises. Bon, moi je ne suis pas forcément tradit ou je ne sais pas quoi, mais on a besoin de se mettre dans toutes les positions, quoi. Et il y a un moment, on va se mettre à plat ventre, devant Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Même après la résurrection, les disciples se mettent à genoux et se prosternent devant Jésus. Ah oui, ça c'est le don de crainte. Tu es Dieu, Seigneur, et si je me prosterne devant toi, c'est que je dis tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc mes pensées par terre. Et moi je prends tes pensées. C'est ça ce que ça veut dire, la crainte de Dieu. Parce que si on prend Dieu comme le distributeur automatique de grâce et t'as intérêt à m'exaucer vite, bon, on n'a rien compris. Parce que ce qui nous relie à lui, c'est l'amour. Qui va s'exprimer aussi par la crainte de Dieu. Je me prosterne. C'était le geste de Moïse au buisson ardent. Hein. Enlève tes sandales. La piété filiale par laquelle nous nous jetons dans les bras de Dieu. Il y a aussi trois dons qui vont en fait nous renseigner sur qui est Dieu. Je vous le fais vite. Le don de sagesse, qui nous donne de goûter les choses du ciel et de nous en réjouir, le don de science qui nous permet de voir comment Dieu agit ici-bas, et le don d'intelligence qui nous permet de comprendre, entre guillemets, en tout cas de nous ouvrir au mystère de Dieu. Et il peut arriver, c'est arrivé à certains d'entre vous peut-être, que le jour où ils ont reçu une immense effusion des Saint-Esprits, ils n'avaient pas besoin de lire le catéchisme de l'Église catholique, car ils savaient déjà tout. Moi, j'ai connu plusieurs personnes comme ça, bon, et c'est très fort. Une personne qui avait des boulons dans les cheveux, qui vivait de drogue avec... il y avait plein de chiens avec eux, voyez, le squat, ils étaient du côté de Montpellier. Et puis, elle reçoit une effusion du Saint-Esprit. Enfin, pas encore. Elle est attirée, elle se dit « je suis en danger ». Et puis, elle fait du stop pour monter à la communauté des Béatitudes où j'étais, bon, à l'époque. Et c'était du côté de Paris, vous voyez, à la Fortaine. Elle a mis 3 jours parce qu'elle avait ses chiens et tout. Ils l'ont vu arriver avec ses boulons dans les cheveux. Donc c'était un peu hard. Et elle a vécu une telle effusion du Saint-Esprit qu'elle connaissait déjà tout le catéchisme. On était en été, elle a pu être baptisée à Pâques suivant. Elle n'a pas fait les 3 ans, 2 ans, etc. Voilà. Ça, c'est le don d'intelligence. OK. Et pour notre action, c'est le don de force pour aller au-delà de ce qui nous arrête et donner nos conseils pour faire les bons choix. Bon, tout ça, vous connaissez par cœur. Vous avez aussi les fruits du Saint-Esprit que vous trouvez dans Galates 5. Allez, on va les dire de mémoire. Premier fruit du Saint-Esprit, l'amour. Ben oui, l'amour. Dieu est amour. Ensuite, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la patience. La patience, oui, la patience. Voilà. Alors, tout ça. Et puis, évidemment, on va avoir un élan intérieur qu'on va appeler l'émotion du Saint-Esprit. On a envie de faire telle chose. Ça, c'est l'émotion du Saint-Esprit. Et quand ça devient un peu plus au niveau de notre pensée, on va dire ce sont des inspirations, l'émotion des inspirations. Et tout ça aussi va nous amener à la vie charismatique. Vous me donnez encore 10 minutes ? Vous êtes gentils. Alors, les charismes, c'est pas une invention du renouveau charismatique dans les années 67 ou au début du siècle, du 20e. Hein. Vous le trouvez dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. Eh oui. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Voilà. Alors, ça, c'est donc la vie charismatique, elle n'est pas seulement pour les charismatiques. Ben oui, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à la mission. Et donc, si nous sommes tous appelés à la mission, c'est pour ne pas balancer sur les autres nos concepts et nos pensées, même nos bonnes pensées sur la religion. Si nous sommes envoyés en mission, c'est vraiment pour que le Saint-Esprit, à travers nous, eh bien, puisse transmettre ce que Dieu veut. Et nous avons besoin des charismes aussi. Alors, demandons les charismes. Alors, sauf que, attention, il y a quand même un petit danger, c'est de demander l'effusion du Saint-Esprit que pour les charismes. Alors moi, j'ai très très envie d'être un grand charismatique, etc. Alors ça, c'est dangereux. Parce que vous allez pouvoir même chasser les démons et guérir les malades au nom de Jésus, mais vous n'entrez pas dans le royaume. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 7. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors il leur déclara « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est quand même redoutable. Vous voyez, vous allez recevoir, Dieu est bon, il donne des charismes, mais même avec nos charismes, nous pouvons dévier. Et l'orgueil spirituel n'a rien de pire. C'est pour ça que Jésus va dire aux pharisiens avec qui il discute dans Jean 8 que leur père, ce n'est pas Abraham, c'est le démon. Yes. Il dit ça à des gens qui se veulent hyper religieux. Donc attention, ne pas chercher les charismes pour les charismes, parce que c'est trop sympa d'avoir l'interprétation des Écritures, la connaissance, le charisme de guérison. Waouh, moi j'ai le charisme de guérison, voilà. Non, attention, c'est pas ça le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est quoi? C'est brûler d'amour. C'est un feu d'amour. Et l'amour, c'est ce qui fait le lien dans la perfection. Colossiens 3, 14, le lien dans la perfection, c'est la charité. Si je n'ai pas l'amour, j'ai rien. Bon, puisque vous me donnez encore 10 minutes, parce qu'il y en a beaucoup là, mais je ne veux pas le faire trop long quand même. Alors, nous ne sommes pas avec notre petit Jésus. Jésus et moi, c'est super. Voilà, grâce au Saint-Esprit, c'est trop bien. Voilà, j'ai la prière qui vient tout seul, les charismes. Bon, non, en fait, Dieu nous donne une effusion du Saint-Esprit pour que nous formions une famille. Une famille. Et le fruit direct de la Pentecôte, c'est l'Église. Et là, c'est l'œuvre de Dieu. Donc on n'est pas, si vous voulez, encore une fois, dans une position intimiste. Non, Jésus et moi, quoi. Nous formons une famille. Et, en fait, ce qu'on a remarqué le jour de la Pentecôte, c'est que tout le monde parlait dans des langues différentes, mais c'était pas une cacophonie. C'était une harmonie. Et c'est vrai que quand tout le monde parle en langue et chante en langue, il y a une harmonie extraordinaire. Et effectivement, la puissance du Saint-Esprit va construire l'Église. On disait, mais regardez comme ils s'aiment. Puis on avait envie d'aller avec eux. Regardez comme ils s'aiment. Donc, quand vous allez revenir de Notre-Dame d'Abbette, on va vous dire « Waouh, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es rayonnant, t'es amoureux ?» Et vous allez dire « Oui !» Ben oui, on est amoureux du Seigneur. Bon, voilà. Alors, c'est le mystère de l'Église qui est un corps. Un corps où chacun a sa place. Si je suis l'œil, je ne suis pas le pied. Et si je suis le pied, je ne suis pas la main. C'est une unité dans le même esprit. Donc, merci Seigneur pour la diversité de l'Église. Là, toutes les sensibilités possibles et imaginables. Bon, ben merci Seigneur. L'Église, elle est plurielle et elle est une dans le même esprit. Voilà. Et c'est une unité, évidemment, dans l'amour. Et vous comprenez que pour aimer l'autre différent, qui a des charismes ou qui n'en a pas, eh bien, on a besoin de l'amour agapé. On n'est pas là pour devenir des sectes. On va se modéliser sur un gourou et on va être juste des perroquets. Non. Parce que si nous sommes vraiment des fils et des filles, nous aurons la pensée de Christ, mais chacun selon notre spécificité. Et on va rechercher l'unité, oui, parce que notre vocation, c'est l'amour, comme disait la petite Thérèse. Alors, il y aura pas mal de choses encore à dire, mais on va s'arrêter là. On reprendra peut-être tout ça la prochaine fois, si vous voulez, sur le mystère de l'Église, notamment, et sur comment accueillir le Saint-Esprit. Mais déjà, on va demander au Seigneur une nouvelle effusion du Saint-Esprit, si vous voulez bien. Vous en avez assez, vous, la dose du Saint-Esprit? On a toujours besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit.